Nous lisons ensemble quelques versets du chapitre 15 de l'Évangile selon Luc, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, le verset 6. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Nous lisons aussi au verset 9. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'ai perdue. Et puis nous allons aussi dans le verset 21. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Alors, pour ceux qui étaient là mardi soir, vous vous rappellerez qu'on a lu aussi trois passages de ces trois paraboles, et nous avons parlé mardi soir de persévérer dans la foi, et puis parfois aussi il faut savoir lâcher prise en se remettant au Seigneur. Donc persévérer, ça a été l'attitude du berger lorsqu'il s'est mis en recherche de sa brebis égarée. Il a persévéré jusqu'au moment de la retrouver. Ce fut aussi l'attitude de la femme qui est partie chercher sa drachme qui était perdue. Elle a persévéré jusqu'au moment où elle l'a retrouvée. Et puis, par contre, le père, lui, ne s'est pas mis en recherche de son fils, mais il a attendu. Donc on avait parlé de ça, eh bien, mardi soir. Mais ce matin, j'aimerais avec vous, au travers de ces trois paraboles et de ces trois textes que nous avons tirés de ces paraboles, parler de la joie et d'entrer dans la joie du Seigneur et partager cette joie. Ces trois paraboles sont extraordinaires et elles font partie d'un même enseignement de Jésus qui va donner réponse à des critiques qu'il y a à son égard, que nous trouvons au début du chapitre 15, parce que Jésus accueillait et mangeait des gens avec des gens de mauvaise vie, et cela faisait grincer des dents et les pharisiens et les scribes qui critiquaient Jésus à cause de cela. Ils n'avaient pas compris que Jésus était venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc ils n'étaient pas contents. Ils auraient dû se réjouir de ce que le salut était apporté à ces publicains et à ces gens de mauvaise vie. C'est par rapport à cela que Jésus va donner ces trois paraboles. Le Seigneur veut donc partager avec nous sa joie, Dieu est un Dieu de joie. La joie du Seigneur est une chose qui est notre partage. Et nous aimons venir à l'Église. L'Église est une maison de paix. L'Église est une maison de joie. Et nous voulons nous réjouir bien ensemble dans la maison du Seigneur. Le culte est un partage de la joie. Et nous aimons venir à l'Église parce que nous y trouvons beaucoup de paix. Et quand je parle de la paix qui se trouve dans la maison du Seigneur, je me rappelle ce que nous avions vécu il y a quelques années en arrière dans une église. Il y avait une sœur de l'église qui habitait pas loin, à 5 minutes à pied de l'église. Et malheureusement, son mari n'était pas converti et il était même violent et avait des accès de méchanceté. Nous nous avions prêté les doubles de la clé de l'église à cette sœur. Et quand son mari avait ses accès de violence, elle partait de chez elle et elle venait se réfugier dans l'église où elle trouvait un moment de tranquillité, elle laissait passer du temps et après elle rentrait chez elle. Donc elle trouvait de la tranquillité. Bon, bien sûr, on parle de la communion fraternelle et nous trouvons beaucoup de paix dans la maison du Seigneur, mais aussi nous y trouvons de la joie de la maison de Dieu. Je ferai remarquer une chose, c'est que lorsque le berger a retrouvé sa brebis, il est dit au verset 6, « de retour à la maison ». Et on peut faire le parallèle entre la maison et l'église. De retour à la maison. Il appelle ses amis et il invite ses amis à se réjouir. La femme, elle était dans sa maison et elle a invité aussi chez elle ses amis et ses voisines et ils se sont réjouis. Là encore, ça se passe à l'intérieur de la maison. Et puis, de même, pour la fête, les réjouissances qu'il y a eu pour le fils prodigue, ça s'est passé dans la maison familiale. Il y a eu beaucoup de joie. Quelle belle image, en fin de compte, de l'Église où il y a cette joie du Seigneur qui peut s'exprimer et qui nous fait tant de bien. Je parlerai quelques instants de la Sainte-Seine. La Sainte-Seine est un moment solennel, un moment de recueillement, mais n'oublions pas aussi une chose, c'est que la Sainte-Seine est aussi un moment de joie. C'est un moment de joie que nous partageons ensemble. De la même manière, je prends cette image, le pain, il n'y a qu'un seul pain, et il nous représente que nous participons tous à un même corps. J'allais dire, nous sommes tous bénéficiaires de la grâce qui se trouve en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui est monté sur la croix et qui est ressuscité pour chacun d'entre nous. Nous participons donc à ce même pain les uns les autres. Notre vie, elle est en Christ. Et donc, lorsque nous prenons la Sainte-Seine, nous participons à un moment de joie. La Sainte-Seine est aussi un moment de joie et que Dieu soit béni. Lorsque Paul va se retrouver en Macédoine, il va se retrouver en prison. Et là, le geôlier va avec sa famille va se convertir au Seigneur Jésus. Et il nous est dit dans Actes 16, verset 34, que le geôlier s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Alléluia. Toute sa famille se sont réjouis d'avoir cru en Dieu. Dieu nous invite à la joie. Dans Romains chapitre 15, verset 10, il est dit « Nation, réjouissez-vous avec son peuple ». Il y a là une invitation de Dieu lui-même à se réjouir avec le peuple de Dieu en raison de la miséricorde que Dieu adresse à chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni pour la joie que nous trouvons dans la maison du Seigneur et qui nous fait tant de bien. Ça nous fait tant de bien. L'Église est vraiment extraordinaire. C'est une oasis dans ce monde qui est désertique. Nous y trouvons la paix, nous y trouvons la joie, nous y trouvons la sainteté, la justice, le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Que Dieu soit glorifié pour ce qu'il nous accorde. Et nous voulons ensemble nous réjouir devant le Seigneur. Alors, nous allons prendre quelques exemples, à commencer par cette parabole du fils prodigue, où certaines personnes ne se sont pas réjouies. Si la maison du Seigneur est une maison de joie, si Dieu nous accorde sa joie, il nous invite à entrer dans sa joie. Malheureusement, notre cœur n'est pas toujours bien disposé à entrer dans la joie, et ce pour différentes raisons. Le premier exemple que je prendrai, c'est celui du frère aîné du fils prodigue. Et ça donne écho à l'attitude des pharisiens et des scribes qui ne se réjouissaient pas de voir les publicains et les gens de mauvaise vie avec Jésus. Le frère aîné qui rentre des champs entend au loin la musique, les danses, et il se met en colère. Il est irrité. Il n'est pas dans la joie, il ne peut pas entrer dans la joie parce que son cœur est en colère. Pour lui, il y a de l'injustice, il y a de la jalousie, parce qu'il ne comprend pas la dimension de miséricorde que son père a accordée à son frère. Son frère qui a eu une attitude déplorable, il est vrai, mais son frère qui revient repentant. Il n'entre pas dans ce temps de louange, il n'entre pas dans cette dimension de joie, il ne peut pas se réjouir. Malgré les invitations de certaines personnes, de son père lui-même, qui l'invite à se réjouir avec eux, mais il n'entre pas dans la maison. Hein. Il reste dehors, il ne veut pas participer à cela. Et il se coupe lui-même d'une bénédiction, il se coupe lui-même de ses réjouissances, et par là même aussi d'une réconciliation avec son frère. On se réjouit de voir des âmes se donner au Seigneur dans la maison du Seigneur. On se réjouit. Mais par expérience, il m'est arrivé parfois de voir des réactions étonnantes. Lorsque certaines personnes se donnent au Seigneur, ça peut susciter, à cause de différentes choses, à cause de la crainte parfois qu'on peut avoir, une crispation, et au lieu d'entrer dans la joie du Seigneur, nous restons bloqués dans un certain enfermement, soit de crainte, soit d'amertume. Je rappelle une expérience que nous avons vécue il y a des années en arrière dans une ville... une petite ville de la province française où nous étions pasteurs, nous avons vu une bonne quinzaine de musulmans venir à l'église. On pourrait se réjouir, que Dieu soit béni. Mais tout le monde ne s'est pas réjoui. Tout le monde ne s'est pas réjoui parce que ça avait provoqué une certaine crainte de la part de certains frères et sœurs. Si je ramène à la proportion par rapport à l'église de Sainte-Agne, qui fait à peu près le double de cette église, c'est comme s'il y avait une trentaine de musulmans qui, d'un seul coup, viendraient à l'église. Imaginez-vous la salle. On pourrait se réjouir et se réjouir. Et je pense qu'on se réjouirait. Mais on peut comprendre aussi que cela crée un électrochoc et qu'il y ait des craintes, des crispations, surtout par rapport à tout ce que l'on peut entendre aujourd'hui par rapport à cette religion. Nous voulons nous réjouir des œuvres de Dieu. Nous voulons nous réjouir de ce que Dieu nous accorde. Et lorsque l'on reste sur nos blocages, nous n'entrons pas dans la louange, nous ne pouvons pas entrer dans la joie du Seigneur, ni même dans cette communion à laquelle le Seigneur nous appelle. J'aimerais prendre un autre exemple que nous allons trouver dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel au chapitre 6, verset 15. Deuxième livre de Samuel, chapitre 6, verset 15. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Et si nous continuons la lecture de ce chapitre 6, nous voyons qu'elle va faire ouvertement le reproche à David après, et que David va la reprendre par rapport à cela, parce que pour lui c'était important de se réjouir devant le Seigneur. Donc lorsque David va revenir, parce que l'arche est ramenée à Jérusalem, donc elle, d'ailleurs, c'est étonnant, on voit que le peuple est là, dans la rue, en train de se réjouir, mais elle est restée chez elle. Elle ne participe pas à ce moment de joie, et non seulement elle ne participe pas en restant chez elle, mais en plus, elle méprise David qui exprime sa joie, alors peut-être d'une manière exubérante, j'en parlerai tout à l'heure, mais il exprime cette joie qu'il a devant le Seigneur, il exprime cette joie. Alors, évidemment, Michal a un parcours difficile dans sa vie, un parcours chaotique. Elle est fille de Saül, et au départ, elle n'aurait pas dû se marier avec David. C'était Merab, sa sœur aînée, qui était prévue qu'elle se marie avec David. Mais Saül a fait une entourloupe à David et il a donné en mariage Merab à quelqu'un d'autre. Et puis, comme Michal aimait David, en lot de consolation, j'allais dire, Saül a donné en mariage Michal à David. Et puis, après, David a été obligé de s'enfuir de chez David, de chez Saül, à cause des raisons que l'on connaît, et de la méchanceté de Saül à son égard. Et entre-temps, Saül a fait une offense à David en prenant sa fille et la donnant à un autre homme. Plus tard, Abner, qui va rejoindre le camp de David, va reprendre Michal et la redonner à David. Donc on voit que le parcours de Michal est compliqué et chaotique, mais quoi qu'il en soit, elle a laissé entrer le mépris dans son cœur. Et ça, il n'y a pas pire pour ôter la joie que Dieu veut mettre dans notre cœur. Le temps était à se réjouir et pas à se lamenter, parce que l'arche de l'Éternel revenait enfin en Israël. Il revenait enfin à Jérusalem. Donc, il fallait donc se réjouir. Nous voulons nous réjouir. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, nous dit la parole de Dieu. Il y a des étouffoirs à la joie. J'ai parlé du mépris, j'ai parlé de la jalousie, on pourrait parler aussi de l'envie, de l'insatisfaction, on pourrait parler de l'inquiétude, voire de l'indifférence. Et là, on se souvient des paraboles qu'on appelle la parabole des festins des noces. Lorsque le festin des noces était prêt, le maître a envoyé ses serviteurs pour dire à tous les invités, venez, hein, car le festin est prêt. Et alors, ils sont partis chercher les invités, Alors, y en a qui se sont excusés. Je viens d'acheter un champ. Et il faut que j'aille le voir. J'ai acheté des bœufs aussi. Hein, il fallait qu'il aille les essayer, les voir. Et puis, moi, je me suis marié, donc je ne peux pas venir. Donc, ils n'ont pas participé à ce moment de joie. C'est festin des noces, c'est un moment de joie. Le maître voulait vraiment faire participer à cette joie tous ceux qu'il avait invités. Ils ne sont pas venus, ils n'ont pas pu entrer dans la joie à cause de leur indifférence, voire aussi de leur mépris. Pour eux, aller visiter un champ, etc., c'était plus important que de participer à la joie avec leurs amis. Aussi, le maître va dire à ses serviteurs d'aller chercher tous les estropiés, les boiteux, tous ceux qu'ils pouvaient trouver le long des haies, et de les faire venir et d'entrer dans ce festin des noces. Donc on voit que entrer dans la joie de Dieu, c'est pas si évident que cela, parce qu'il se passe des choses dans notre cœur, parce qu'il y a des choses qui nous bloquent, qui pourraient nous empêcher de profiter pleinement de la joie du Seigneur. Et puis, j'aimerais aussi parler de ce qui s'est passé dans le temple lorsque les enfants criaient dans le temple « Hosanna au Fils de Dieu ». Jésus venait faire des miracles. Et les pharisiens, il nous a dit que les pharisiens étaient mécontents à la vue des choses merveilleuses que Jésus avait fait, et aussi des enfants qui criaient Hosanna dans le temple de Dieu. Ils auraient dû se réjouir. Ils auraient dû se réjouir de voir ces miracles qui se passaient. Mais ils n'ont pas pu entrer dans cette joie à cause de leur jalousie, à cause de leur mépris qu'ils avaient à l'égard de Jésus. Ils ne pouvaient pas non plus se réjouir de voir les enfants qui criaient « Hosanna » dans le temple de Dieu. Ils ne pouvaient pas entrer dans cette joie-là. Là encore, j'aimerais donner une expérience que nous avons vécue il y a quelques années en arrière dans une église. Il y a eu une action du Saint-Esprit remarquable dans le cœur des enfants qui venaient à l'église. Et pendant les périodes de vacances scolaires, il n'y avait pas l'école du dimanche, donc les enfants assistaient au culte. Et il s'est passé des choses extraordinaires que le Saint-Esprit a fait dans le cœur des enfants. On chantait les cantiques, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et puis après, comme nous le faisons, il y a ces louanges spontanées. Et sur plusieurs dimanches, il y a eu une action du Saint-Esprit dans le cœur des enfants. Les enfants, spontanément, louaient le Seigneur à haute voix dans l'église. Tout à fait remarquable. Et des prières profondes, des louanges vraiment marquantes. On pourrait se réjouir de cela. Mais vous savez, la particularité des enfants, c'est leur spontanéité. Et il n'y a pas mieux que les enfants pour briser tous les protocoles religieux qu'on pourrait avoir, tous les codes qu'on pourrait avoir, parce que ça les dépasse, tout simplement. Mais quand ils sont touchés par le Saint-Esprit, ils s'expriment d'une manière spontanée. Bien sûr que la grande majorité de l'Église s'est réjouie de cette action du Saint-Esprit dans le cœur des enfants et de l'expression, de la manifestation de la joie qu'ils avaient. Mais, quand même, quelques personnes, une minorité certes, mais quand même quelques personnes ne sont pas entrées dans cette joie et se sont aigries de voir cela. Parce qu'effectivement, comme je disais, les enfants, dans leur spontanéité, brisent les protocoles religieux que nous pouvons même nous avoir. réjouissons-nous. Apprenons à nous réjouir. Et c'est vrai que parfois, il peut y avoir une certaine crainte à exprimer sa joie, parce que la joie peut être, pas toujours, mais peut être parfois exubérante. Pas toujours. Parfois, la joie, elle se manifeste d'une manière tranquille. La joie tranquille du peuple de Dieu. Et la plupart des moments, c'est comme cela. La joie, elle est aussi paisible, elle est tranquille. Mais la joie peut être exubérante, comme ce fut le cas à un moment avec le roi David, comme ce fut le cas dans le temple avec les enfants qui criaient Hosanna, comme ce fut le cas aussi pour le boiteux du temple, boiteux de naissance, que l'on trouve dans Actes chapitre 3, où il nous est dit qu'il, après sa guérison, il marchait, il sautait et il louait Dieu. Là encore, hein, il a manifesté sa joie d'une manière exubérante. Et ça peut arriver que sous une grande bénédiction, sous l'action du Saint-Esprit, personne manifeste leur joie d'une manière tellement expressive que certains peuvent être surpris. Mais nous voulons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous voulons vraiment considérer que la maison du Seigneur est une maison de miracles, une maison de paix, une maison où la joie s'exprime. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour ce qu'il nous fait, pour ce qu'il nous accorde. N'oublions pas aussi que Jésus lui-même a tressailli d'allégresse et de joie. Et lorsque Jésus a tressailli d'allégresse et de joie, il a dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce siècle et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Et c'est à ce moment-là que Jésus a tressailli d'allégresse. J'aimerais avec vous lire encore un autre passage dans le psaume 100. Le psaume 100. Le psaume 100, qui est un psaume de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Ce psaume est assez court, mais c'est une véritable invitation à la joie. Dieu nous invite à la joie. J'ai noté juste 3-4 versions. Dans la traduction Jérusalem pour ce psaume, la version Jérusalem, c'est la version catholique, il dit « Allez à lui avec des chants de joie ». Dans la version Colombe, il dit « Venez avec des acclamations en sa présence ». En français courant, il dit « Présentez-vous à lui avec des cris de joie ». Notons encore la version sommaire qui dit « Entrez dans sa présence avec des chants joyeux ». Donc on voit que ce psaume est une véritable invitation de Dieu à entrer dans sa joie, à entrer dans sa joie. Oui, comme je le disais tout à l'heure, et c'est écrit dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la joie de l'artifice humain, on a bien compris, mais c'est par le Saint-Esprit. Cette joie va donc s'exprimer dans la louange. Elle s'exprime dans la louange, et ça nous le voyons dans différents psaumes de la parole de Dieu. Et elle s'exprime aussi dans la prière. Je vais lire avec vous un passage dans Philippiens. Alors dans l'épître de Paul aux Philippiens, il est très souvent question de la joie. Il y a cette répétition de Paul dans cet épître il nous dit réjouissez-vous, hein, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Au chapitre 1, verset 3, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Lorsque nous prions, nous nous supplions le Seigneur, c'est parce qu'il y a quelque chose, voilà, il y a un fardeau et on peut s'imaginer Paul en train de prier pour les Philippiens, il a ce fardeau sur les cœurs et il prie pour eux, mais en même temps, il manifeste sa joie pour lui. Il manifeste sa joie devant le Seigneur pour ces Philippiens et pour la part qu'ils prennent à l'Évangile. Donc la joie, elle accompagne aussi ces moments de prière qui peuvent être intenses, que Dieu soit glorifié. Et puis, je citerai pour conclure, bien sûr, ce verset que nous trouvons dans Néhémie, au chapitre 8, verset 10, où il est écrit, et vous devez le connaître par cœur, je suppose, « La joie de l'Éternel sera votre force. » La joie de l'Éternel sera votre force. Nous avons chanté tout à l'heure ces deux, trois premiers cantiques qui nous parlaient de la joie, et nous faisons la joie de notre Seigneur de la même manière que le berger, lorsqu'il a retrouvé sa brebis, il a eu beaucoup de joie, il a invité ses amis à la joie, de la même manière que cette femme qui a retrouvé sa drague s'est réjouie, elle a invité ses amis à se réjouir avec elle, de la même manière que le père du fils prodigue s'est réjoui et il a fait une fête de réjouissance pour son fils, avec ses amis, sa famille. Et de la même manière, nous voulons nous réjouir devant le Seigneur. Oui, la maison du Seigneur, c'est une maison de joie et c'est une raison de plus pour nous d'aimer la maison du Seigneur. Un jour dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. C'est une maison de joie. La joie de l'Éternel sera notre force. Que Dieu soit béni. Amen.